franceinter.fr.
Ce qu'il y a de chouette quand on écoute là-bas si j'y suis, c'est qu'on sait avant tout le monde à quoi s'attendre. Exemple, l'année dernière, au mois d'avril, on apprenait que, si elle était élue, la gauche ferait, je cite, « le sale boulot ». Eh bien, on y est. Honnêtement, l'accord signé avec le MEDEF, je ne l'ai pas lu. Mais quand je vois Laurence Parisot avec sur la figure l'air ravi du chat qui vient de bouffer le canari, je me dis que ça sent l'arnaque à plein nez. Pas vous ? C'est Christine du Limousin.
Aujourd'hui, je suis triste en pensant que les employés de Renault ont accepté de travailler plus en gelant leur salaire. Ce n'est, hélas, pas les premières à céder au chantage libéral des multinationales. Leur leitmotiv bien connu est celui-ci. Nous sommes dans une concurrence mondiale et si vous ne voulez pas que l'on ferme des usines en France, faites des efforts. Mais pourquoi tous ces employés ne se rendent pas compte que dans cette compétition mondiale, ils ne seront jamais concurrentiels tant que leurs salaires ne seront pas au niveau de ceux des Chinois? Et il ne sert à rien de se réfugier sous le principe désuet que nous sommes plus chers, mais que nous savons faire de la haute technologie. En effet, que croyez-vous que les Chinois font? Mais de la haute technologie aujourd'hui aussi. Arrêtez de croire au chant des sirènes ultralibéral. Ce n'est pas en baissant vos salaires de quelques pourcents que vous vous en sortirez. La solution est ailleurs.
Ah, les États-Unis, quel pays formidable pour les entrepreneurs. C'est pas comme en France. Par exemple, il y a eu ces dernières années un certain nombre de massacres dans les lycées et même dans des écoles primaires à grands coups d'armes à feu. Eh bien, que vont-ils faire? Interdire les armes à feu? Non. Ça nuirait au commerce, ça supprimerait des emplois, ce serait horrible. Non, là, des jeunes entrepreneurs géniaux viennent de trouver la solution, le cartable anti-balle, le cartable par balle. C'est pas génial, ça? Franchement? Ça, c'est une économie vigoureuse. Ça, c'est une économie vivace. Ça, c'est une leçon pour l'Europe.
Bonjour à tous, j'ai écouté là votre émission, notamment ce chant assez émouvant au Portugal contre la dictature des banques. Et moi, j'ai un petit message quand même que manifestement personne ne voit, mais à chaque fois qu'on emprunte, on est de facto placé en situation de déficit. Quand un État emprunte, bah, il doit le capital plus ses intérêts. Donc forcément, comme on ne lui a pas donné les intérêts, il est en déficit. Quand un ménage emprunte, c'est la même chose. Il est en déficit du montant des intérêts. Quand une entreprise emprunte, elle est en déficit du montant des intérêts. Quand une collectivité publique emprunte, elle est en déficit du montant des intérêts. Voilà. Donc en fait, toutes les dettes, c'est les intérêts que les banques n'ont jamais créés. Et nous avons une banque centrale en Europe qui crée de l'argent contre intérêt aussi, la BCE. Et nous avons la Fed aussi, une banque centrale américaine, privée celle-là, qui crée aussi de l'argent. Contre-intérêt, jamais créé. Et tout ça, ça engendre des centaines de milliards de déficits publics et privés, si ce n'est pas des milliers. Merci, au revoir.
Ô grandeur éternelle de la pince à vélo, splendeur universelle, véritable joyau, plus utile que le saphir et le diamant réunis, incapable de tenir un falzard dans son pli. Avant son invention, l'homme enfilait, pas bête, le bas de son pantalon dans le haut de sa chaussette, mais ce moyen primaire, commode et sans rival, froissait d'affreuse manière le malheureux futal. D'éminents forenthèmes se creusant les méninges, crurent résoudre le problème grâce à la pince à linge, oubliant que le vent se prenant dans ses branches provoquait un boucan à vous gâcher le dimanche. D'autres intellectuels, plus férus de technique, essayèrent la ficelle, solution utopique, car au moindre chaos lâchait ce lien sacré, laissant le froc penaud coincé dans le pédalier. Pour éviter les taches dues à la chaîne graisseuse, rien ne vaut cette attache évidente, lumineuse, qui procure le bonheur d'avoir pour quelques sous l'élégance du facteur pédalant comme un fou. C'était Georges-Philippe Taladiar, poète intempestif. Salut.
Eh bien, merci pour cet éloge de la pince à vélo. Ça tombe très bien, parce que je vais vous faire une confidence maintenant qu'on se connaît depuis si longtemps. J'utilise des pinces à vélo, ouais, pour traverser Paris en vélo le matin et le soir, pour venir ici à la maison de la radio. Eh bien, je mets une pince à vélo. Et hier, ma vie a changé, parce que sur le parcours que je fais tous les jours, j'ignorais que je longeais chaque jour la statue de Simon Bolivar. Simon Bolivar. Et hier, il y avait une cérémonie en hommage, évidemment, à la mémoire d'Hugo Chavez. Et cette cérémonie avait lieu autour de la statue de Simon Bolivar. Ça va être la première partie de notre heure ensemble aujourd'hui. Après quoi, nous retrouverons Régis Debray. Pourquoi ? Parce que dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci, Régis Debray publie un long papier tout à fait passionnant qui s'intitule « La France doit quitter l'OTAN ». C'est absolument passionnant parce que c'est une histoire de politique étrangère de la France, de politique de la France. C'est une réponse à Hubert Védrine, auquel le président de la République, l'actuel président, a demandé un rapport, une étude sur la France doit-elle ou non rester dans l'OTAN. La réponse d'Hubert Védrine, c'est plus grand-chose, pourquoi pas, oui, qu'elle reste. Et Régis Debray dit non. Non, la France doit quitter l'OTAN et il va nous dire pourquoi, en reprenant ce qu'il a écrit dans le diplôme de ce mois-ci. Mais alors, évidemment, chemin faisant, on parlera d'autre chose. On commencera par parler de Stéphane Hessel, dont Régis Debray fut l'ami. Et puis on parlera aussi du bel âge, on parlera de choses et d'autres, et de la nécessité impérieuse de s'intéresser à ce qui se passe dans le reste du monde. Si nos confrères s'étaient un peu plus penchés sur ce qui se passe dans le reste du monde, et notamment, par exemple, en Amérique latine, et par exemple, disons, au Venezuela, ils auraient sorti sans doute moins d'incongruités hier et encore aujourd'hui, sans doute, sur Chavez et sur le Venezuela. À partir du Venezuela, c'est la Bolivie qui a changé, c'est l'Équateur qui a changé, c'est le Brésil qui a changé, c'est le Chili qui change, c'est l'Argentine aussi. C'est donc un moment extrêmement important et on peut faire un lien sans doute entre ce possible déclenché par la révolution bolivarienne et Hugo Chavez et ce qui s'est passé aussi dans le monde arabe. Oui, on peut tout à fait faire un lien parce qu'il y a un moment où les choses, c'est possible. Il y a du possible qui surgit, qui arrive, sans qu'on l'ait vraiment, sans qu'on puisse le repérer exactement. L'événement, c'est ça, sa nature, c'est la surprise. Mais certains l'avaient préparé depuis fort longtemps. Donc c'est un événement important. C'est ce qui s'est passé là-bas en Amérique latine et en Amérique du Sud, au Venezuela, il y a maintenant 15 ans. Et bien sûr qu'il y a plein de critiques à faire du personnage Chavez, mais certainement pas du peuple vénézuélien tel qu'on l'avait rencontré nous en 2005. On en a parlé hier, qui était en émulsion, qui était en jubilation, on peut dire, à l'époque, et qui visiblement l'est resté. Et en tout cas, à en juger par l'hommage national qui est rendu à Chavez actuellement, et aussi par l'amélioration de son sort, par l'amélioration indéniable du sort du peuple vénézuélien. Voilà où nous allons. Donc d'abord, hommage à la mémoire de Chavez rendu hier à Paris. Et ensuite, rendez-vous pour un entretien tout à fait jubilant et passionnant avec Régis Debray.
Chavez vive, la lucha sigue.
Alors il y a des germes de fleurs. Plusieurs grandes couronnes de fleurs. Comandante Hugo Chavez Frias.
Merci de votre présence auprès de la statue du libérateur Simon Bolivar. Je passe la parole à l'ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela qui va déposer la germe de fleurs.
Le peuple vénézuélien vous remercie.
El pueblo de Venezuela agradece la presencia de todos ustedes aquí en esta noche, en esta plaza.
Demandamos la justicia de nuestro combate. Viva Chavez por siempre.
Viva.
Presente, ahora y siempre. Chávez, presente. Ahora y siempre.
Mes chers amis, merci d'être là pour faire la preuve que le peuple français est capable de comprendre lorsque la solidarité internationale est en jeu. Ce soir, votre nombre prouve que le peuple de France a un lien direct et un sentiment profond pour la révolution bolivarienne. Je commence par donner la parole immédiatement à Jean-Luc Mélenchon, co-président du Parti de gauche.
Je vais vous lire les paroles du commandant lui-même. Et je vais partager mes paroles entre l'espagnol et le français. Compartiré mis palabras entre mi pobre español y el francés. Los que me desean a mí la muerte, yo les deseo mucha vida para que vean cómo la revolución bolivariana va a seguir avanzando de batalla en batalla y de victoria en victoria. Voici la réponse de Chavez. À ceux qui souhaitent ma mort, je leur souhaite une longue vie pour qu'ils voient comment la révolution bolivarienne va continuer à avancer bataille après bataille, victoire après victoire. Nous sommes commémorando, somos celebrando la lucha revolucionaria por la justicia social. La esperanza invencible de que el progreso social es el horizonte de la humanidad pour aujourd'hui et pour toujours. Notre horizon est celui de la lutte révolutionnaire pour le progrès social. Son œuvre, comme toute œuvre humaine, comporte ses parts d'ombre. Mais combien d'œuvres humaines ont autant de parts de lumière? Voilà ce qu'il faut retenir d'Hugo Chavez et du peuple vénézuélien. Engagé de toutes ses forces. Gloria Chavez, Gloria a los pueblos de América Latina. Viva!
El pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido
portando la unidad. De norte a sur se movilizará.
El día de ayer se ha muerto un gran hombre.
C'est un grand homme qui est mort hier.
Y que pasará a la historia como el gran conciliador.
Et il passera à l'histoire comme le grand conciliateur.
Y el gran integrador de la América Latina.
Et le grand intégrateur de l'Amérique latine.
Estoy estudiando gracias a un proyecto de educación que Hugo Chávez llevó a cabo.
Moi, je suis étudiant ici grâce à un projet de bourse d'études mis en place par Hugo Chávez.
Droit des activités spatiales et de télécommunications. C'est par rapport à le lancement du satellite Simón Bolívar et le 12e satellite Francisco de Miranda. Un satellite de télécommunications et un satellite de observation de la Terre. C'est pour profiter de ces deux appareils et partager la technologie avec tous les pays de l'Amérique latine. Un grand homme, hemos perdu.
On a perdu un grand homme.
Merci.
Kindes hermanos, hermanos latinos, sangra el corazón. Nuestro pueblo está llorando a su comandante. Hasta siempre, comandante. No te olvidaremos y seguiremos en la lucha hasta la victoria final. ¡Viva Latinoamérica!
¡Viva! ¡Viva!
Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Régis Debray. La France doit sortir de l'OTAN et autres considérations.
Flight number two, arriving from New York.
Alors, Régis Debray,
on s'est parlé au téléphone avant de se rencontrer pour parler du papier que vous publiez dans le Diplo de ce mois-ci sur l'OTAN. un grand papier sur le temps, mais vous m'avez dit, ah oui, mais auparavant, je voudrais bien qu'on parle un petit peu de Stéphane Hessel. Et vous m'avez dit, je voudrais bien mettre quelques pendules à l'heure.
Écoutez, une célébrité est toujours une somme de malentendus, hein, et il n'y a jamais de flanflon sans quelques flous. La grande presse a parlé du juste avec un grand J, de l'humaniste avec un grand H, tout ça ne mange pas de pain. En fait, Hessel était un juste conséquent, disons, parce que moi, je ne vois pas beaucoup de justes avec un grand J qui vont à Gaza, par exemple. Il se trouve que j'en parle parce que j'y étais avec lui. Mais il y a tout de même un paradoxe, Hessel. C'est qu'au fond, Hessel est un modéré subversif, un trouble fait de pondéré. Car au fond, c'est un enfant de Roosevelt. Et c'est toujours ainsi qu'il s'est défini. C'est un enfant de Roosevelt, c'est-à-dire, il se référait toujours, Stéphane, à la proclamation des quatre libertés de l'Atlantique, Churchill, Roosevelt en 41, alors liberté d'expression, de religion, liberté, émancipation de la misère et de la peur. Il disait, voilà, ça, c'est ma boussole. Le problème, c'est qu'il va à chaque fois jusqu'au bout. C'est un homme qui, en quelque sorte, pour ses principes, principes qui ne sont pas tout à fait les miens. Je les trouve, à mon goût, un peu idéalistes et peut-être proches de certaines abstractions sentimentales. Il n'en reste qu'il mérite entièrement la légende et l'aura qui sont la sienne, pas seulement parce que c'est le contre-coup d'un discrédit général et qu'enfin nous avions un homme, disons, intègre, honnête et allant jusqu'au bout de ses idées, mais je tiens à répéter qu'au fond, il y a un certain humour dans la faveur posthume de Stéphane. D'abord, c'est un littéraire, c'est un poète, hein. Un homme d'une politesse exquise, un homme de l'ancien temps, mais qui n'a pas déserté les temps d'aujourd'hui. Et puis, un orphelin de Roosevelt qui devient un peu à son corps défendant le généralissime d'une armée rouge mondiale, c'est assez amusant, car n'oublions pas que c'était un partisan de la non-violence. Mais la non-violence, il me l'a appris, c'est pas de rester chez soi ni de faire des prières au bon Dieu. C'est aller, par exemple, en Palestine, à Biline, par exemple, ce village qui essaye de se défendre de l'occupation sans recourir aux armes. Donc voilà, je pense que c'était un homme d'une grande noblesse, mais que je ne voudrais pas trop qu'on l'expédie, je dirais, dans un septième ciel nébuleux, abstrait et commode. C'était un homme incommode.
L'opération israélienne contre Gaza est une contre-performance absolue.
Là-bas, si j'y suis, 8 janvier 2009.
Même en France, parmi des gens qui cependant ont plutôt de la sympathie pour Israël, ça va être de plus en plus difficile de ne pas être révulsé par la façon dont les Israéliens se comportent et l'armée israélienne se comporte à Gaza. Je ne dis pas qu'il faut comparer ce qui se passe à Gaza à ce qu'ont subi les Juifs en Allemagne du temps de la Shoah, mais la violence utilisée contre un peuple, l'impossibilité qui lui est faite d'avoir enfin cet État auquel ils aspirent depuis 60 ans, c'est vraiment un crime.
Régis Debray, il y a quand même évidemment une admiration envers lui, qui était son grand âge, sa lucidité, son énergie avec son grand âge. Et ça tombe assez curieusement avec un bouquin que vous allez publier dans les temps prochains, qui s'intitule « Le bel âge ». Ce n'est pas un livre bien épais non plus, hein, 100 pages de Debray. Ça veut dire quelque chose d'assez dense, et qui s'appelle « Le bel âge », où vous faites, en somme, l'éloge du grand âge. Et vous dites comment être vieux, vous donnez une sorte de quatrième âge, mode d'emploi.
Non, je dis surtout que la jeunesse n'est pas une question d'âge, qu'il y a des jeunes très vieux, moi je connais des vieux de 25 ans, et puis j'ai connu des octogénaires très jeunes, très juveniles, je pense à Stéphane Hessel, mais je pourrais parler de Daniel Cordier par exemple, de Crémieux-Briac, donc j'en ai assez du jeunisme si vous voulez, j'ai même noté une chose bizarre, c'est que plus un pays vieillit, plus un pays se racornit, plus il a le culte de la jeunesse, c'est-à-dire en tout cas le culte de l'adolescent comme bonne cible commerciale, bonne pâte à modeler, bon client des supermarchés. Alors que dans les périodes de la Révolution française, on avait plutôt le culte des aînés et la résistance même. C'est très frappant quand on voit tous les appels de la résistance. Jamais il n'appelle à la jeunesse en tant que telle.
Pétain, par contre, vous le rappelez.
Nous sommes en train, nous, de répéter toutes les fêtes de la jeunesse que Vichy avait mises sur pied. Quand on voit un peu la propagande de Vichy, on voit qu'elle elle tourne autour de l'idolâtrie de la jeunesse, qui est un vieux truc fasciste, et qu'on retrouve par d'autres biais, par le biais du marché, le biais du sport, à notre époque. Donc je trouve ça assez facétieux que ce soit toujours les vieux cons qui exaltent les jeunes et les jeunes qui ont souvent 70 ou 80 ans et qui sont souvent beaucoup plus progressistes que nos jeunes réactionnaires.
Parce qu'on peut, en matière de racisme, il faut faire très attention avec certains groupes sociaux. Il ne faut pas dire les juifs, il faut faire très attention. Les musulmans, il faut faire très attention. Les homosexuels, il faut faire très très attention. Mais enfin, les vieux, on peut y aller, quoi. Hein, les vieux, les vieux, les vieux schnocks, les vieilles biques, ça, on peut y aller franchement, on peut se marrer, gâteux, il fait sous lui, etc. Ça, on peut vraiment se lâcher.
Ah oui, il y a une impunité complète dans ce domaine. Et je la trouve très injuste. Enfin, moi, je suis peut-être un gérontophile, n'est-ce pas? Mais au fond, j'ai toujours beaucoup appris auprès des anciens. Et au fond, la culture, c'est peut-être ça, hein, c'est de se mettre un peu à l'apprentissage, de se mettre à l'écoute des gens qui ont plus d'expérience que nous et qui peuvent nous transmettre quelque chose d'essentiel. Donc, la haine de la transmission et le mépris de la vieillesse, ça va ensemble, n'est-ce pas? Au fond, un conservateur, c'est quelqu'un qui veut toujours être up-to-date, qui veut toujours coller à l'instant, qui ne veut pas s'embarrasser d'un passé et qui donc répète continuellement les mêmes choses. Voilà, non, je crois qu'il faut non seulement réhabiliter l'âge mûr, disons, et arrêter de bêtifier devant les bambins, mais que l'idée de mettre l'enfant, par exemple, au centre de l'école, ce n'est pas une bonne idée pour l'éducation des enfants. Il faut mettre le savoir, la discipline, pour les amener non pas à rester enfants, mais à grandir. Donc je crois qu'il faut réhabiliter certaines notions qui me semblent essentielles à la gauche, qui sont celles de mûrissement, d'éducation, d'apprentissage, de discipline, de maturité, toutes choses qui aujourd'hui semblent très ringardes, mais qui me semblent tout à fait essentielles. Je pense notamment aux humanités, avec un S, essentielles, au sentiment d'humanité sans S. Voilà. C'est vrai, je me sens de plus en plus rétif au vacarme jeuniste, qui me semble non seulement décérébré, mais également nous faire l'otage du marché.
Voilà, le bouquin de Debray va sortir dans quelques jours. Régis Debray, Le Bel Âge, chez Flammarion. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur Stéphane Hessel. De partout, les papiers, vous avez vu un peu cette prodigalité d'articles, etc. J'ai par exemple sous les yeux Courrier International, éloge de l'indignation, très bien, parfait, c'est stimulant. Régis Debray vient de le dire, mais je veux qu'on revienne quand même encore une fois sur ce qui est de plus en plus mis de côté, on le voit, hein, ça passe sous le tapis. C'est pourtant ce à quoi Hessel tenait beaucoup et sur lesquels il a insisté, c'est la question israélo palestinienne et notamment sa fameuse présence à Gaza. En tout cas, si l'hommage est unanime, il y a quand même un truc qui coince, c'est-à-dire la question israélo-palestinienne et notamment Gaza. Vous étiez allés ensemble à Gaza, il était très ferme, ce qui lui a valu et ce qui lui vaut actuellement des insultes, vraiment des gens qui sont actuellement en train de conchier un cadavre. C'est très, très violent ce qui se dit sur lui.
Écoutez, ces insultes, c'est sa récompense, je dirais. Parce qu'au fond, Stéphane s'est mis en porte-à-faux avec son milieu, parce qu'il était l'homme de tous les porte-à-faux, c'est-à-dire l'homme des vérités. Autrement dit, il voulait que les hommes s'émancipent de leur appartenance ethnique, tribale, religieuse. Et lui est un universaliste jusqu'au boutisme, n'est-ce pas ? Et donc, c'est vrai que, appartenant lui-même à la communauté juive, enfin tout en récusant ce terme de communauté, mais se disant juif, il s'est voué à ce qu'il y a de plus universel dans l'éthique juive. Et donc, ça l'a mis en porte-à-faux avec le communautarisme juif. Et cela, en quelque sorte, atteste que tout engagement a son coût.
On nous dit ici ou là qu'il ne faudrait pas toucher une personnalité aussi éminente que l'ancien ambassadeur Stéphane Hessel. Est-ce que vous dites que cet homme-là doit échapper, s'il le faut, à la justice ?
Radio J, 20 octobre 2010.
En aucune manière. D'ailleurs, le personnage...
Pierre-André Taguieff.
...est frauduleusement autoproclamé rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, alors qu'il n'était à l'époque qu'un subalterne plus ou moins signifiant en tant que chef de cabinet de Henri Laugier. Il y a une extraordinaire vanité chez ce monsieur qui fait que il va jusqu'à prôner le boycott complet d'Israël au nom de, je dirais, de la dénonciation de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. On est dans ce que j'ai appelé l'antisionisme absolu ou radical, qui est une forme de racisme, d'appel à la haine et à la violence contre un État-nation et son peuple.
Traiter Stéphane Hessel d'antisémite, c'était pour le moins cocasse. Qui pouvait prendre au sérieux, je dirais, que c'était au contraire la plus belle expression de l'éthique juive. Si cette éthique, comme je le crois, a une forte fond d'universalisme.
Sa participation, si ce qui est mis en cause par certains, les mêmes que je viens d'évoquer, c'est sa participation à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme de 1948.
Mais il n'a jamais dit qu'il y avait participé, il était beaucoup trop jeune, il a été le témoin de cela. Et c'est en témoin qu'il parlait. Et nul ne peut nier que cette déclaration, c'est sa boussole, sa ligne de conduite, donc c'est normal qu'il s'identifiait un peu à cette formidable déclaration universelle des droits de l'homme.
Il y a aussi un Stéphane Hessel pédagogue aussi. Hein. Il y a une dimension avec 3 millions, 4 millions d'exemplaires vendus de son livre. Il a touché vraiment très, très large public.
Involontairement, c'est là encore on retrouve cette formidable ironie de l'histoire. Parce que, d'ailleurs, quand on partait pour Gaza dans l'avion, il me dit, tu sais, on va sortir un petit bouquin de moi. Mais enfin, c'est pas grand-chose. Hein. C'est une petite conversation que j'ai eue comme ça, à partir d'un discours que j'avais fait sur le plateau d'Edlier avec Aubrac et quelques copains. Et puis, il y avait une éditrice, Sylvie Crospin, qui était là, qui a dit, bon, on va en faire un petit truc. Il disait, voilà, dans son esprit, ça devait tirer à 3000 exemplaires. Et voilà. Et puis, tout d'un coup, cette sorte de flambée, comme ça, internationale. Mais c'est moins le livre que l'homme, n'est-ce pas, qu'on a célébré, me semble-t-il. Ce livre, qui n'est pas un livre, encore une fois, qui est une brochure, a eu l'aura d'une personnalité exceptionnelle. Donc ceux qui s'acharnent pour montrer que ce livre n'est pas un programme économico-social très affûté sont des jobards ou des malveillants, parce que jamais Stéphane a voulu faire de la philosophie politique à travers ce livre-là. Il a voulu pousser un cri, le cri a été entendu, bravo.
Il ne suffit pas de s'indigner, mais il faut commencer par s'indigner et ensuite, il faut essayer de voir quels sont les vrais périls, les vrais défis devant lesquels vous vous trouvez et qui exigent que vous vous engagiez. Si vous restez indifférent, vous n'obtiendrez aucun résultat. Si vous vous contentez de vous indigner, de vous mettre en colère, ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, pour le très vieux que je suis, 94 ans, l'appel qu'il adresse va nécessairement à des gens plus jeunes que lui, aux générations qui lui ont succédé. Et naturellement, il a une préférence pour les plus jeunes, disons l'âge entre 18 et 24 ans. ce sont ceux qui, à mon avis, peuvent prendre connaissance de ce qui est important maintenant, s'engager dans des formes d'action politiquement responsables et sortir un peu de ce sentiment tous pourris, ça n'a pas d'importance, on ne peut pas avoir confiance en personne. Très dangereux, parce qu'à ce moment-là, on reste en marge, alors qu'il faut être dedans.
Les actualités françaises, 7 avril 1949.
Le pacte atlantique est désormais une réalité. Et M. Schuman expose à l'auditorium de Washington les raisons de l'adhésion française.
Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine.
Après le discours du ministre français, les 12 représentants des nations occidentales apposent leur signature au bas du pacte. Le pacte atlantique, dont tous les ministres présents ont souligné le caractère défensif, unit 12 nations dont le seul but est d'assurer la paix. Une paix maintenant plus sûre.
La France doit quitter l'OTAN, c'est le papier de Régis Debray dans Le Monde diplomatique de ce mois-ci, en réponse, c'est une lettre ouverte, en réponse à Hubert Védrine, ami de Régis Debray, lequel, je disais en commençant, Hubert Védrine, à la demande du président de la République actuelle, a donné un rapport sur cette question dont il ressort, en gros, non, la France n'a pas à quitter l'OTAN aujourd'hui, étant donné ce que l'OTAN est devenu. On peut essayer de rappeler en quelques mots, à partir de cette archive qu'on vient d'entendre à grands pas, comme ça, l'histoire de l'OTAN, 1949, donc création de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui s'oppose évidemment au pacte de Varsovie, c'est la guerre froide, c'est les deux blocs, c'est le symbole même de l'atlantisme, et le général de Gaulle, en 1966, décide que la France doit sortir du commandement intégré de l'OTAN. En 1991, implosion du bloc de l'Est, et donc l'OTAN, adversaire du pacte de Varsovie, se trouve sans objet, n'a plus de raison d'être, et ça reste comme ça un peu dans le flou jusqu'en 1999, guerre du Kosovo, et c'est l'OTAN là est remis en selle, s'engage, bombardement, vous vous en souvenez, de Belgrade, de la Serbie contre l'ennemi Milosevic, et il y aura une grande date très importante aussi pour l'OTAN, c'est le 11 septembre 2001, où là, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la lutte contre non plus le communisme, mais contre le terrorisme, une entité extrêmement vague, polyforme comme ça, le mot clé sera Al-Qaïda, ce terrorisme islamiste qui va désormais nécessiter la durée de l'OTAN, pense-t-on, et c'est là la raison de lui donner une nouvelle mission pour beaucoup. Donc aujourd'hui, la France, que peut-elle faire dans tout cela? Je viens de le dire, donner le point de vue d'Hubert Védrine. Et donc, ce mois-ci, dans le Diplo, Régis Debray donne le sien et ouvre une controverse.
J'ai effectivement une controverse avec mon vieil ami Védrine, qui a entériné en quelque sorte dans ce rapport une mesure qui, dit-il, n'aurait pas été la sienne s'il avait été au gouvernement, mais une fois qu'elle a été prise, bon, il a tendance à dire, bah, écoutez, on est dans la nasse et on ne peut pas en sortir. Il reconnaît que c'est une nasse. Il reconnaît qu'il y a un risque pour la France de banalisation, de normalisation et, disons, de passer sous la table. Alors, son raisonnement est très étayé. Il dit, un, l'OTAN n'est plus ce qu'elle était quand de Gaulle en est parti. Alors, ce que Védrine dit, c'est l'OTAN aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu mou, c'est une sorte de forum où quand on tape du poing sur la table, on peut se faire entendre. Et d'ailleurs, les États-Unis s'en fichent un peu de l'OTAN, ils sont tournés vers le Pacifique, donc au fond, on peut y avoir un rôle. Alors, je constate qu'à mon sens, Je ne vois pas un affaiblissement, je vois un formidable renforcement de l'OTAN. D'abord, une extension géographique considérable, puisque je vous rappelle que l'OTAN, ça veut dire traité de l'Atlantique Nord. Or, moi, je constate que les membres de l'OTAN sont en Afghanistan, sont dans le golfe Persique, étaient en Libye, en tout cas dans les airs. Bref, qu'au contraire, nous avons là un système en expansion. Deuxièmement, c'est un système qui n'est plus militaire, mais qui devient politico-militaire et même idéologico-politico-militaire. Donc, s'il est bien certain que les États-Unis connaissent un déclin relatif, il reste l'hyperpuissance dominante, sûre d'elle et agressive. Donc, première différence, non, c'est un système en expansion et de plus en plus, je dirais, contraignant. Il y avait une quinzaine de membres à la fondation de l'OTAN, il y en a aujourd'hui 27. Donc c'est un bloc. C'est même le seul bloc existant dans le monde. Or, aujourd'hui, la saison des blocs est terminée. Le type de guerre à mener devient de moins en moins frontal, de plus en plus informel, asymétrique. Nous ne sommes plus à l'époque des divisions blindées contre divisions blindées, comme c'était le cas avec le pacte de Varsovie et l'OTAN. Et puis surtout, je crois que la France a certains avantages comparatifs par rapport à d'autres pays européens que son intégration dans l'OTAN va annuler. D'abord, une force de frappe dont elle a à la fois les outils matériels et la maîtrise de la décision, la capacité de parler avec tout le monde sans veto extérieur, un rayonnement, en tout cas ce qui peut rester d'un rayonnement vis-à-vis des grands États du Sud. Et puis surtout, on assiste aujourd'hui à une formidable éclosion des souverainetés nationales un peu partout. Et je trouve dommage que nous nous subordonnions aujourd'hui à une hégémonie américaine. Et s'il y a une tradition en France, au royaume de France, c'est que nous n'aimons pas les empires. Le royaume s'est taillé contre les empires depuis toujours. La force de Gaulle, c'est d'avoir compris cela. Et nous sommes en train d'y renoncer. Parce que, avouons-le, la France s'est laissée coloniser depuis une trentaine d'années, de façon accélérée, dans ses classes supérieures, intellectuelles entre autres, médiatiques, ça va sans dire. Et il est certain que, disons, le fait que l'instance politique soit aujourd'hui reléguée en queue et l'instance économique en tête, l'économie est par définition tournée vers le monde anglo-saxon. Dans les réunions patronales, on parle anglais. Et à chaque fois que la France a voulu se distancier des États-Unis, on l'a bien vu sous Chirac, le MEDEF hurle, le patronat s'insurge, le Figaro monte sur ses grands chevaux. Et donc, il y a une combinaison, si vous voulez, entre la croissante hégémonie du monde économico-financier à l'intérieur de la France et l'hégémonie américaine au plan stratégique. Donc tout ça, me semble-t-il, ne fait pas l'affaire de notre pays et ne fait pas l'affaire de l'Europe. Donc au fond, ce n'est pas rendre service à l'Europe que de se placer dans le sillage américain qui a toujours été très soucieux à ce que l'Europe n'existe pas autrement que comme un marché et non pas comme un centre de décision. Voilà pourquoi, je résume très grossièrement, je me suis permis d'entamer cette petite controverse fraternelle avec mon ami Védrine. Mais si vous voulez, ce sera dur de remonter la pente. Et au fond, moi je peux donner raison à Védrine sur un seul point. Sortir des commandements intégrés de l'OTAN aujourd'hui exigerait un projet collectif, une mise sous tension de tous nos appareils d'État, et je dirais une sorte de sursaut national, et je dirais un courage politique dont je ne vois pas les prémices sous notre actuel régime, n'est-ce pas ? Parce que j'avais noté tout de même que dans l'affaire de Wikileaks, on avait certains télégrammes de l'ambassade des États-Unis indiquant des démarches empressées de dirigeants socialistes français au moment du discours de Villepin à l'ONU, une démarche empressée pour venir se démarquer.
Pierre Moscovici, vous le citez dans votre papier.
Bah oui, c'est vous qui le citez.
Non, c'est vous qui le citez,
oui,
Régis.
Non, enfin, bon, ne le laissons pas la vindique. Autrement dit, d'ailleurs, quelle vindique, parce qu'il a dû se gagner beaucoup de sympathie dans les milieux patronaux et politiques de droite avec ce genre de démarche et de déclaration d'allégeance. Car en fait, en tant que patriote, car je suis un patriote, j'ai été très choqué de voir qu'au moment où notre pays prenait solennellement une position sur la scène internationale, il s'est trouvé des gens dits de gauche pour venir en quelque sorte dénoncer, cafeter auprès du maître, auprès du suzerain, et faire acte de vassalage. Ça me semble plus qu'une indélicatesse. N'employons pas de grands mots. Mais voilà, donc, demander à ces gens-là de ruer dans les brancards de l'OTAN me semble... C'est un peu ce que demande Hubert Védrine, au fond. Il demande, mais on va se ressaisir, vous allez voir, on va avancer des idées neuves, on va éventuellement disputer le leadership aux États-Unis d'Amérique. Pas avec nos équipes actuelles, où il y a des gens remarquables, mais pas sur ce plan.
Alors nous parlons de l'OTAN. Tandis que se dissipe la perspective d'une guerre mondiale éclatant à cause de l'Europe.
Général de Gaulle.
Voici que d'autres conflits où l'Amérique s'engage dans d'autres parties du monde.
21 février 1966.
Comme avant-hier en Corée, hier à Cuba, aujourd'hui au Vietnam, ces conflits peuvent prendre une extension telle qu'on aboutisse à une conflagration générale. Et dans ce cas, l'Europe, dont la stratégie est dans l'OTAN la stratégie de l'Amérique, y serait automatiquement impliquée, même si elle ne l'avait pas voulu. Et ce serait le cas de la France. Cette volonté de la France est incompatible avec une organisation de défense dans laquelle elle est subordonnée.
Alors, quand même, quand on arrive à la fin de votre papier, Régis Deprez, on est pris d'une certaine nostalgie. Nostalgie, ça me ramène à...
C'est pas un gros mot, la nostalgie.
Voilà, j'étais sûr.
C'est souvent un coup de pied dans le cul. C'est-à-dire une façon de puiser dans ce qu'il y a eu de grand dans notre passé, des raisons d'agir dans le présent et pour l'avenir.
Donc, nostalgie en matière de politique étrangère... On se dit, oui, effectivement, De Gaulle revient. On se dit, bon, pourquoi est-ce qu'on a encore un ministère des Affaires étrangères alors qu'on n'a plus de politique étrangère? Et là, c'est le 10e anniversaire de la guerre d'Irak, 23 mars 2003. Et là, la France a eu, pour la dernière fois, peut-être, vous allez me dire si vous êtes d'accord, une politique étrangère. C'est-à-dire, avec Chirac et Villepin, la France a décidé... de ne pas y aller. D'ailleurs, le Diplo sort un petit extrait des mémoires de Jacques Chirac où il explique effectivement comment il a eu affaire aux, ce que le Diplo appelle les lobbyistes de Washington qui sont venus le voir, c'est-à-dire essentiellement les patrons du MEDEF de l'époque, c'était Monsieur Sellière, je crois, qui sont venus voir Chirac en lui disant « mais on ne peut pas faire une chose pareille, on ne peut pas se couper les ponts avec nos amis américains, etc. » Enfin, l'avenir économique du pays en dépend. On se souvient également, effectivement, comment aux États-Unis, il y a eu des mouvements d'humeur vis-à-vis des Français qui ont été de courte durée, et comment finalement, 10 ans après, pour les gens de gauche, c'est pas forcément une bonne date, parce que c'est quand même bel et bien la droite qui a eu ce geste, mais enfin, on a évité à notre pays une aventure qui a été une catastrophe criminelle.
Oui, c'est vrai que ça a été le dernier grand sursaut, mais je n'exclus pas qu'il y en ait d'autres, et que mon ami Laurent Fabius trouve une veine du même style à telle ou telle occasion dans le futur. Mais c'est vrai que nous avons tous à ce moment-là senti une grande fierté, c'est vrai. Mais ce n'était pas, je dirais, pour le plaisir de bomber le torse, car en fait, le refus de Chirac et de Villepin de se mettre dans le sillage des États-Unis, ça procédait d'un réalisme, tout simplement. D'abord, dénoncer un mensonge officiel, un mensonge d'État, à savoir la possession par Saddam Hussein d'armes de destruction massive. Deuxièmement, éviter une idiotie considérable qui consiste à simplement envahir un pays sans qu'on y soit appelé par personne, en violation de toutes les lois internationales. Donc on doit faire attention avant de pratiquer ce que nous appelons le droit d'ingérence, qui n'est pas un droit d'ailleurs, qui consiste tout simplement pour nous à choisir là où l'on doit intervenir et là où on ne peut pas le faire. Généralement, on intervient chez les faibles et pas chez les forts, bien entendu.
Ce que j'allais vous dire, Régis Debray, parce que quand même, là, on dit, oui, il y a 10 ans, l'Irak, la France a eu le talent de ne pas y aller. Mais enfin, depuis, on a eu une intervention en Libye. Vous avez cité l'OTAN qui est intervenue en Libye, au moins pour les opérations aériennes. Et puis, actuellement, alors, on n'est plus dans le sujet de l'OTAN, mais enfin, on a des opérations au Mali. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas du tout de politique étrangère de la France et des interventions de la France.
Attendez, la politique étrangère, ça suppose une pensée, ça suppose une idée pour à la fois éclairer et unifier les conduites extérieures d'un État. La politique étrangère, ce n'est pas nécessairement la diplomatie. La diplomatie, c'est, je dirais, l'appareillage des moyens, c'est l'outillage. Alors, quelle est aujourd'hui la finalité de la politique étrangère française? Je ne la vois pas très bien. L'intervention en Libye, personnellement, j'étais plus que réservé. Je suis frappé, en plus, de tous ces gens qui tranchent des situations extrêmement compliquées dans une totale ignorance des données intérieures d'un pays, de ses données culturelles, de ses données tribales, de ses données historiques. Vraiment, il y a certains intellectuels qui ne méritent qu'un immense éclat de rire, voire une fessée. Je vous dirais la même chose pour le Mali. Là, encore une fois, je suis extrêmement réservé. Autant une intervention ponctuelle pour sauver notamment nos ressortissants à Bamako d'une éventuelle et gigantesque prise d'otages devait être envisagée, autant se laisser enliser dans un conflit qui n'est pas le nôtre me semblerait fort dangereux. Donc voilà, tout ça relève d'une casuistique. Personnellement, j'ai une très grande réserve devant tout ce qui est une intervention militaire des puissances du Nord dans les États du Sud. Voilà. Gardons tout de même présent à l'esprit que les peuples doivent rester maîtres chez eux et qu'il ne faut pas se substituer à leur propre volonté. Autrement dit, la tentation impériale est toujours présente dès lors qu'on a une écrasante supériorité militaire. Mais cette écrasante supériorité militaire, elle débouche le plus souvent sur des désastres politiques et finalement des défaites militaires, comme en Afghanistan aujourd'hui. Voilà qui devrait nous inciter à une certaine réserve.
Régis Debray, il y a un épisode concernant l'OTAN où vous avez été témoin, au moins. C'est 1999, au Kosovo, et c'était le retour de l'OTAN. 99. On ne savait plus très bien quoi faire de cet OTAN, c'est ce qu'on disait. Là, tout d'un coup, on lui trouvait un rôle et une fonction formidable qui était de nous protéger d'un monstre parfait qui était un mélange d'Hitler et de Staline qui était en train d'opprimer ces pauvres Albanais. Et à quelle force il fallait avoir recours, eh bien, c'était l'OTAN. Et tout d'un coup, là, l'OTAN rebondissait, repartait, et c'était son anniversaire.
Oui, parce qu'il fallait bien lui trouver une raison, non pas de vivre, mais de survivre à sa raison d'être, qui était tout simplement de stopper ou de dissuader l'Union soviétique d'envahir ou de finlandiser l'Europe de l'Ouest. Donc, il a bien fallu que l'OTAN change de cheval et est devenu la main de fer des droits de l'homme, si j'ose dire, en plaisantant quelque peu. Autrement dit, l'OTAN est passé de la défensive à l'offensive, tous azimuts, notamment en Serbie, où, au bilan, et si on regarde le Kosovo, une épuration ethnique a été remplacée par une autre. Un État mafieux nous est né, au sud de la Yougoslavie. La Serbie a été jugulée. Voilà, je précise tout de suite que moi, je n'étais ni pro-serbe, ni pro-albanais. Il se trouve que je me suis trouvé là-bas, sur place, au moment où un ministre de la Défense allemand publiait un rapport insensé où il parlait de 300 000 réfugiés sur les routes. Moi, j'en avais vu 300, donc j'ai simplement dit, attendez, là, il y a de la propagande, ça va pas. Bon, alors à partir de là, on a fait de moi le suppôt d'un
nouvel Milosevic.
Le suppôt d'un nouvel Hitler. Bon, ça, c'est, je dirais, ne sous-estimons pas la force médiatique des États-Unis d'Amérique et de leur allié. Il reste la première puissance médiatique du monde. Donc, il faut savoir que quand on divorce ou diverge de ce monde-là, le coup médiatique est toujours fort. Mais on en a vu d'autres.
En Albanie, le témoignage de Régis Debray, intellectuel connu, voire respecté de beaucoup de nos interlocuteurs, a fait l'effet d'une bombe.
TF1.
Pour tous ces représentants d'organisations internationales qui enquêtent déjà depuis plusieurs semaines sur des exactions qu'ils pensent indubitablement commises au Kosovo.
12 mai 1999.
Pour tous, il leur semble que Régis Debray ait pu être très intelligemment manipulé par un régime dont ils connaissent les méthodes depuis près de 8 ans, à moins qu'il ne pousse un peu loin une idéologie.
Il y a 500, 400 000 personnes qui sont ici dans des conditions effroyables.
Maria Blackbeller, International Rescue Committee.
Est-ce que vous croyez que les gens ont encore même un intérêt à inventer d'autres histoires? De toute façon, on connaît Milosevic. C'est pas la première fois, et sûrement pas la dernière fois. On connaît ce qu'il a fait déjà en Bosnie, on sait ce qu'il a fait en Croatie. Je ne sais pas pourquoi il y a tous ces intellectuels qui sont en train d'essayer de faire une comptabilité. Des massacres, qu'est-ce qu'ils veulent? Des fours crématoires?
On a eu l'occasion à l'époque d'évoquer ce qui s'était passé au Kosovo et comment Debray était allé au Kosovo. On n'a plus le temps maintenant de résumer cette histoire, mais là c'est un petit écho très très intéressant, je vous promets. On reviendra sur ce thème très prochainement à l'occasion d'un livre qui va évoquer le Kosovo. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce que je disais tout à fait au début, la méconnaissance du Venezuela qui a produit, qui est en train de produire un tas de papiers plus ignares ou la mauvaise foi le dispute à l'ignorance. Donc, s'intéresser au vaste monde. Régis Debray.
Vous savez, la vie internationale appelle trois observations. Un, c'est complètement idiot. Deux, c'est toujours la même chose. Trois, ça n'intéresse personne, hormis les lecteurs du monde diplomatique. C'est complètement idiot. Avouez que, par exemple, aller envahir l'Afghanistan qui ne vous a rien fait, dont vous ne connaissez ni la langue, ni la culture, ni la cuisine, vous arrivez de 10 000 kilomètres, un enfant de 7 ans vous dirait « ça marche pas ». Mais il aurait dit la même chose à Napoléon, au moment d'envahir la Russie ou à Hitler. Bref, il y a des choses complètement idiotes dans la vie internationale. Il faut avoir des idées simples pour aborder la politique étrangère. Deuxièmement, c'est toujours la même chose. Oui, parce qu'il n'y a pas de leçon de l'histoire. On ressasse les mêmes choses. Après l'Indochine, on est en Algérie. Et puis après, on est en Libye, et puis au Mali, et puis je dirais qu'il y a des rimes, il y a des refrains. C'est très troublant la façon dont on revient toujours aux mêmes erreurs. Et puis donc c'est aberrant, c'est récurrent, et ça laisse indifférent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est très loin, ça ne nous concerne pas. C'est pas vrai. Moi je trouve que la politique internationale aujourd'hui, c'est notre politique intérieure. Si vraiment on prend au sérieux la mondialisation, le ministre des Affaires étrangères, c'est celui qui va à la racine des choses. Non, il faut revenir à des idées simples. Un, est-ce qu'on est chez nous? Est-ce qu'on a le droit d'être là? Quelles conséquences ça va faire sur le long terme, notre action à court terme? Des petites choses très simples comme ça. Et puis, il faut essayer d'apprendre du passé, au lieu toujours de ressasser. Et puis, il faut essayer d'impliquer les gens, de les entraîner à regarder une carte et à leur montrer finalement que notre sort dépend de tout cela qui nous semble abstrait tant qu'on ne reçoit pas de bombe sur la figure.
C'est d'ailleurs pourquoi on s'intéressait beaucoup plus au monde auparavant, au temps de la guerre froide, au temps des colonies, parce qu'on avait des colonies, qu'on avait des familles ou qu'on risquait d'y être présent. Et ensuite, on a eu la guerre froide, on s'intéressait beaucoup plus au monde. La mondialisation, c'est le contraire du monde.
Oui, d'autant que la mondialisation a pour conséquence la nationalisation, voire la balkanisation. Donc la mondialisation, c'était également l'épanouissement des particularismes. Mais je dirais qu'il y a une raison plus profonde aujourd'hui, c'est l'absence d'éducation à l'histoire et à la géographie, n'est-ce pas? On n'enseigne plus les chronologies. Quand vous regardez un manuel d'histoire de 5e ou de 2e, c'est affligeant, n'est-ce pas? C'est du people, quoi. On ne sait plus ce que c'est que les peuples, la culture des peuples, leur histoire. On noie tout ça dans des confusionnismes, dictature, démocratie, droits de l'homme, alors qu'on a perdu, je dirais, le sens charnel de la diversité du monde. Donc ça, c'est aussi, je pense, une démission à l'école. Parce que pour s'intéresser à la vie internationale, il faut tout de même connaître l'histoire des nations et la géographie. Ce n'est pas exactement le sens de nos réformes d'aujourd'hui.
Merci, Régis Debray. Je rappelle le papier « La France doit quitter l'OTAN dans le monde diplomatique de ce mois-ci ». Le bouquin « Le bel âge » sortira au début avril chez Flammarion. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Programme ». Émission là-bas, si j'y suis. Vous pouvez également écouter cette émission sur la-bas.org et aller faire un tour sur la page Facebook de « Là-bas, si j'y suis ». Fabien Laléouze et Sandrine Laurent étaient à la technique aujourd'hui. Franck Adhérère et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch et Marion Dupart. Attends vos messages sur le répondeur de la base si j'y suis au 01 56 40 37 37.